aux amoureux. Chaque semaine, je vous lis un chapitre de Fragments du discours amoureux de Roland Barthes pour méditer sur ce qui nous bouleverse tous, l'amour. Roland Barthes a écrit en 77 son ouvrage sous une forme de dictionnaire, dans lequel il décortique chacun des aspects du sentiment amoureux. Il s'appuie sur des romans, et notamment « Les souffrances du jeune Werther » de Goethe, mais aussi sur des philosophes, les philosophes grecs, Diderot, Nietzsche et d'autres encore, et enfin sur son propre vécu. Cette semaine, écrire, errance, étreinte et exil. Écrire. L'heure, débat et impasse auxquels donne lieu le désir d'exprimer le sentiment amoureux dans une création, notamment d'écriture. Deux mythes puissants nous ont fait croire que l'amour pouvait, devait se sublimer en création esthétique. Le mythe socratique, aimer sert à engendrer une multitude de beaux et magnifiques discours, et le mythe romantique, je produirai une œuvre immortelle en écrivant ma passion. Cependant, Werther, qui autrefois dessinait abondamment et bien, ne peut faire le portrait de Charlotte. À peine peut-il crayonner sa silhouette qui est précisément ce qui d'elle l'a capturé. J'ai perdu la force sacrée vivifiante avec quoi je créais autour de moi des mondes. Voici un haïku. La pleine lune d'automne, tout le long de la nuit, j'ai fait les 100 pas autour de l'étang. Pas d'indirect plus efficace pour dire la tristesse que ce tout le long de la nuit. Si j'essayais, moi aussi. Ce matin d'été, beau temps sur le golfe, je suis sortie cueillir une glycine. Ou ce matin d'été, beau temps sur le golfe, je suis restée longtemps à ma table sans rien faire. Ou encore, ce matin, beau temps sur le golfe, je suis restée immobile à penser à l'absent. D'un côté, c'est ne rien dire, de l'autre, c'est dire trop. Impossible d'ajuster. Mes envies d'expression oscillent entre le haïku très mat, résumant une énorme situation, et un grand charroi de banalité. Je suis à la fois trop grande et trop faible pour l'écriture. Je suis à côté d'elle, qui est toujours serrée, violente, indifférente au moi enfantin qui la sollicite. L'amour a certes partie liée avec mon langage qui l'entretient, mais il ne peut se loger dans mon écriture. Je ne puis m'écrire. Quel est ce moi qui s'écrirait? Au fur et à mesure qu'il entrerait dans l'écriture, l'écriture le dégonflerait, le rendrait vain. Il se produirait une dégradation progressive dans laquelle l'image de l'autre serait elle aussi peu à peu entraînée. Écrire sur quelque chose, c'est le périmer. Un dégoût dont la conclusion ne pourrait être que « à quoi bon ?» Ce qui bloque l'écriture amoureuse, c'est l'illusion d'expressivité. Écrivain ou me pensant tel, je continue à me tromper sur les effets du langage. Je ne sais pas que le mot « souffrance » n'exprime aucune souffrance, et que par conséquent l'employé, non seulement ce n'est rien communiqué, mais encore, très vite s'est agacé, sans parler du ridicule. Il faudrait que quelqu'un m'apprenne qu'on ne peut écrire sans faire le deuil de sa sincérité. Toujours le mythe d'Orphée. Ne pas se retourner. Ce que l'écriture demande et que tout amoureux ne peut lui accorder sans déchirement, c'est de sacrifier un peu de son imaginaire et d'assurer ainsi à travers sa langue l'assomption d'un peu de réel. Tout ce que je pourrais produire au mieux, c'est une écriture de l'imaginaire. et pour cela il me faudrait renoncer à l'imaginaire de l'écriture. Me laisser travailler par ma langue, subir les injustices, les injures, qu'elle ne manquera pas d'infliger à la double image de l'amoureux et de son autre. Le langage de l'imaginaire ne serait rien d'autre que l'utopie du langage. Langage tout à fait originel, paradisiaque, langage d'Adam. Langage naturel, exempt de déformation ou d'illusion, miroir limpide de nos sens, langage sensuel. Dans le langage sensuel, tous les esprits conversent entre eux. Ils n'ont besoin d'aucun autre langage, car c'est le langage de la nature. Vouloir écrire l'amour, c'est affronter le gâchis du langage. Cette région d'affolement où le langage est à la fois trop et trop peu. Excessif, par l'expansion illimitée du moi, par la submersion émotive, et pauvre. Par les codes sur quoi l'amour le rabat et l'aplatit. Devant la mort de son fils enfant, pour écrire, ne serait-ce que des lambeaux d'écriture, Mallarmé se soumet à la division parentale. Mère pleure. Moi, je pense. Mais la relation amoureuse a fait de moi un sujet atopique, indivis. Je suis mon propre enfant. Je suis à la fois père et mère, de moi, de l'autre. Comment diviserais-je le travail ? Savoir qu'on n'écrit pas pour l'autre, savoir que ces choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j'aime, savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas, c'est le commencement de l'écriture. Errance. Bien que tout amour soit vécu comme unique et que le sujet repousse l'idée de le répéter plus tard ailleurs, il surprend parfois en lui une sorte de diffusion du désir amoureux. Il comprend alors qu'il est voué à errer jusqu'à la mort d'amour en amour. Comment finit un amour ? Quoi ? Il finit donc ? En somme, nul, sauf les autres, n'en sait jamais rien. Une sorte d'innocence masque la fin de cette chose conçue, affirmée, vécue selon l'éternité. Quoi que devienne l'objet aimé, qu'il disparaisse ou passe à la région amitié, de toute manière je ne le vois même pas s'évanouir. L'amour qui est fini s'éloigne dans un autre monde à la façon d'un vaisseau spatial qui cesse de clignoter. L'être aimé résonnait comme un vacarme, le voici tout à coup mat. L'autre ne disparaît jamais quand et comme on s'y attend. Ce phénomène résulte d'une contrainte du discours amoureux. Je ne puis moi-même, sujet énamouré, construire jusqu'au bout mon histoire d'amour. Je n'en suis le poète, le récitant, que pour le commencement. La fin de cette histoire, tout comme ma propre mort, appartient aux autres. À eux d'en écrire le roman, récit extérieur, mythique. J'agis toujours, je m'entête à agir, quoi qu'on m'en dise et quels que soient mes propres découragements, comme si l'amour pouvait un jour me combler, comme si le souverain bien était possible. De là cette curieuse dialectique qui fait succéder sans embarras l'amour absolu à l'amour absolu. Comme si par l'amour j'accédais à une autre logique, l'absolu n'étant plus contraint d'être unique. À un autre temps, d'amour en amour, je vis des instants verticaux. À une autre musique. Ce son, sans mémoire, coupé de toute construction, oublieux de ce qui le précède et le suit, ce son est en lui-même musical. Je cherche, je commence, j'essaye, je vais plus loin, je cours, mais jamais je ne sais que je finis. Du phénix, on ne dit pas qu'il meurt, mais seulement qu'il renaît. Je puis donc renaître sans mourir ? Dès lors que je ne suis pas comblée et que cependant je ne me tue pas, l'errance amoureuse est fatale. Werther lui-même l'a connue, passant de la pauvre Léonore à Charlotte. Le mouvement s'est, il est vrai, enrayé, mais s'il avait survécu, Werther aurait réécrit les mêmes lettres à une autre femme. L'errance amoureuse, ça a des côtés comiques. Ça ressemble à un ballet, plus ou moins preste selon la vélocité du sujet infidèle. Mais c'est aussi un grand opéra. Le Hollandais maudit est condamné à errer sur la mer tant qu'il n'aura pas trouvé une femme d'une fidélité éternelle. Je suis ce Hollandais volant. Je ne peux m'arrêter d'errer, d'aimer, en vertu d'une ancienne marque qui me voit dans les temps reculés de mon enfance profonde, au Dieu imaginaire, m'affligeant d'une compulsion de paroles qui m'entraîne à dire « Je t'aime », d'escale en escale, jusqu'à ce que quelque autre recueille cette parole et me la retourne. Mais nul ne peut assumer la réponse impossible, d'une complétude insoutenable, et l'errance continue. Le long d'une vie, tous les échecs d'amour se ressemblent. Et pour cause, ils procèdent tous de la même faille. X et Y n'ont pas su, pu, voulu répondre à ma demande, adhérer à ma vérité. Ils n'ont pas bougé d'un iota leur système. Pour moi, l'un n'a fait que répéter l'autre. Et cependant, X et Y sont incomparables. C'est dans leur différence, modèle d'une différence infiniment reconduite, que je puise l'énergie de recommencer. La mutabilité perpétuelle, in inconstantia constans, dont je suis animée, loin d'écraser tous ceux que je rencontre sous un même type fonctionnel, ne pas répondre à ma demande, disloque avec violence leur fausse communauté. L'errance n'aligne pas, elle fait chatoyer. Ce qui revient, c'est la nuance. Je vais ainsi jusqu'à la fin de la tapisserie d'une nuance à l'autre. La nuance. C'est ce dernier état de la couleur qui ne peut être nommé. La nuance, c'est l'intraitable.
Deux corps sur la route, ça ressemble à la vie. Les pas sur le chemin, le sac qui pèse sur le dos. Ça fait des heures qu'on marche, demain. Dors sur la plage. Ça laisse peu de temps pour vivre que de penser à demain. Se dire qu'on n'a plus que 20 bornes à faire, qu'on a en nous les éléments nécessaires. On va dormir sur la plage, tu verras. On baisera, bercé d'embrun. On est parti sans rien dire à personne. On sait pas où on va. Juste nos envies de fuir. Chez nous ça commençait à sentir les mauvais tourments, les routines. Tu vois, est-ce les décors changent par ici, 20 bornes par jour. Ça laisse le temps pour aimer, bercé par le bruit de nos pas. 20 bornes par jour, le réchaud le soir qui chauffe les mains. L'attente de l'aube neuve, les cartes sur lesquelles on trace nos itinéraires fous. Ça laisse peu de temps pour vivre que de penser à demain. Que se dire qu'on n'a plus que 20 bornes à faire, qu'on a en nous les éléments nécessaires. On va dormir sur la plage, tu verras. On baisera. Versé dans moi. Bien sûr, on pense à ce qu'on a laissé derrière nous par kilomètre. Demain, on ira bouffer des frites, des fruits sur le bord de route, à la marche du temps que l'on rêve. On a toute l'année pour s'aimer, est-ce? Y a pas de voix qui dicte nos conventions, juste les froissés des arbres, les bruissements du chemin. Demain on dort sur le sable froid, à briller au-dessus du réchaud, dormir sur les étoiles, ouais, dormir sur les étoiles, même quand le froid te mord la peau. Ça laisse peu de temps pour vivre, de te penser à demain, que se dire qu'on n'a plus que 20 bornes à faire, qu'on a en nous les éléments nécessaires. On va dormir sur la plage, tu verras. On baisera, bercé d'embrun, bercé d'embrun. C'est peut-être pas suffisant. Il n'y a pas que les mots qui doivent voyager. Tu vois qu'on est fait pour la route, qu'on est fait de l'évanescence du vent. Conscient de l'unité des choses, on s'occupe des jours et des poèmes, à en oublier la pâleur des villes, dormir loin des accusés, enfin passant. Ça laisse peu de temps à vivre, que de penser à demain. Peu de temps à vivre, peu de temps à vivre.
Le geste de l'étreinte amoureuse semble accomplir un temps pour le sujet le rêve d'union totale avec l'être aimé. Hors l'accouplement, au diable alors l'imaginaire, il y a cette autre étreinte, qui est un enlacement immobile. Nous sommes enchantés, ensorcelés. Nous sommes dans le sommeil sans dormir. Nous sommes dans la volupté enfantine de l'endormissement. C'est le moment des histoires racontées. Le moment de la voix qui vient me fixer, me sidérer. C'est le retour à la mer. Dans le calme aimant de tes bras, dit une poésie mise en musique par Duparc. Dans cet inceste reconduit, tout est alors suspendu. Le temps, la loi, l'interdit. Rien ne s'épuise, rien ne se veut. Tous les désirs sont abolis parce qu'ils paraissent définitivement comblés. Cependant, au milieu de cette étreinte enfantine, le génital vient immanquablement à surgir. Il coupe la sensualité diffuse de l'étreinte incestueuse. La logique du désir se met en marche, le vouloir saisir revient. L'adulte se surimprime à l'enfant. Je suis alors deux sujets à la fois. Je veux la maternité et la génitalité. L'amoureux pourrait se définir un enfant qui bande, tel était le jeune Eros. Moment de l'affirmation. Pendant un certain temps, il est vrai. Fini, dérangé, quelque chose a été réussi. J'ai été comblé. Tous mes désirs abolis par la plénitude de leur satisfaction. Le comblement existe. Et je n'aurai de cesse de le faire revenir. À travers tous les méandres de l'histoire amoureuse, je m'entêterai à vouloir retrouver, renouveler la contradiction, la contraction des deux étreintes. Exil. Décidant de renoncer à l'état amoureux, le sujet se voit avec tristesse exilé de son imaginaire. Je prends Werther à ce moment fictif, dans la fiction elle-même, où il aurait renoncé à se suicider. Il ne lui reste plus alors que l'exil. Non pas s'éloigner de Charlotte, il l'a déjà fait une fois sans résultat, mais s'exiler de son image, ou pire encore, tarir cette énergie délirante qu'on appelle l'imaginaire. Commence alors une espèce de longue insomnie. Tel est le prix à payer. La mort de l'image contre ma propre vie. La passion amoureuse est un délire. Mais le délire n'est pas étrange. Tout le monde en parle. Il est désormais apprivoisé. Ce qui est énigmatique, c'est la perte de délire. On rentre dans quoi ? Dans le deuil réel, c'est l'épreuve de réalité qui me montre que l'objet aimé a cessé d'exister. Dans le deuil amoureux, l'objet n'est ni mort, ni éloigné. C'est moi qui décide que son image doit mourir. Et cette mort, j'irai peut-être jusqu'à la lui cacher. Tout le temps que durera ce deuil étrange, il me fera donc subir deux malheurs contraires. Souffrir de ce que l'autre soit présent, continuant malgré lui à me blesser, et m'attrister de ce qu'il soit mort, tel du moins que je l'aimais. Ainsi je m'angoisse, vieille habitude d'un téléphone qui ne vient pas, mais dois me dire en même temps que ce silence, de toute manière, est inconséquent, puisque j'ai décidé de faire mon deuil d'un tel souci. Il appartenait seulement à l'image amoureuse d'avoir à me téléphoner. Cette image disparue, le téléphone, qu'il sonne ou non, reprend son existence futile. Le point le plus sensible de ce deuil n'est-il pas qu'il me faut perdre un langage, le langage amoureux ? Fini les « je t'aime ». Le deuil de l'image, pour autant que je le rate, me fait angoisser. Mais pour autant que je le réussis, il me rend triste. Si l'exil de l'imaginaire est la voie nécessaire de la guérison, il faut convenir qu'ici le progrès est triste. Cette tristesse n'est pas une mélancolie, ou du moins c'est une mélancolie incomplète, nullement clinique. Car je ne m'accuse de rien, et je ne suis pas prostrée. Ma tristesse appartient à cette frange de la mélancolie où la perte de l'être aimé reste abstraite. Manque redoublé. Je ne puis même pas investir mon malheur, comme au temps où je souffrais d'être amoureuse. En ce temps-là, je désirais, je rêvais, je luttais. Un bien était devant moi, simplement retardé, traversé par des contretemps. Maintenant, plus de retentissement. Tout est calme et c'est pire. Quoique justifié par une économie, l'image meurt pour que je vive, le deuil amoureux a toujours un reste. Un mot revient sans cesse. Quel dommage. preuve d'amour. Je te sacrifie mon imaginaire. Comme on faisait la dédicace d'une chevelure. Ainsi, peut-être, du moins le dit-on, accéderai-je à l'amour vrai ? S'il y a quelques similitudes entre la crise amoureuse et la cure analytique, je fais alors le deuil de qui j'aime, comme le patient fait le deuil de son analyste. Je liquide mon transfert. Et c'est ainsi, paraît-il, que la cure et la crise finissent. Cependant, a-t-on fait remarquer, cette théorie oublie que l'analyste lui aussi doit faire le deuil de son patient. Faute de quoi l'analyse risque d'être interminable. De même, l'être aimé, si je le lui sacrifie un imaginaire qui cependant l'empoissait, l'être aimé doit entrer dans la mélancolie de sa propre déchéance. Et il faut, concurremment à mon propre deuil, prévoir et assumer cette mélancolie de l'autre. Et j'en souffre, car je l'aime encore. L'acte vrai du deuil, ce n'est pas de souffrir par la perte de l'objet aimé. C'est de constater un jour, sur la peau de la relation, telle menue tache, venue là comme le symptôme d'une morsure. Pour la première fois, je fais du mal à qui j'aime, sans le vouloir, certes, mais sans m'affoler. Je tente de m'arracher à l'imaginaire amoureux. Mais l'imaginaire brûle par-dessous, comme de la tourbe mal éteinte. Il s'embrase de nouveau. Ce qui était renoncé ressurgit. De la tombe mal fermée éclate brusquement un long cri. Jalousie, angoisse, possession, discours, appétit, signe. De nouveau, le désir amoureux brûlait de partout. C'était comme si je voulais étreindre une dernière fois à la folie quelqu'un qui allait mourir. À qui j'allais mourir. J'opérais un déni de séparation. C'était Philos Amourons. Cette semaine, nous avons écouté les chapitres Écrire, Errance, Étreinte et Exil. Deux morceaux de musique de Philo, Vinborn Blues et La Marche du Chameau. Lecture de Jean-Siane. À la semaine prochaine.